À Chicago dans les années 20, à Las Vegas en 45, la pègre prend le pouvoir aux États-Unis. Et dans l'ombre des mafieux, des femmes révolutionnent l'histoire du crime. Après le triomphe de femmes de dictateurs, Diane Ducrêt dévoile l'intimité de ses Lady Scarface. Lady Scarface de Diane Ducrêt, un récit haletant, écrit comme un thriller et riche en révélations. Aux éditions Perrin Plan.
Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Les évadés, les exploits des prisonniers français durant la Seconde Guerre mondiale, c'est le titre de l'ouvrage que vient de faire paraître Daniel Bilalian aux presses de la Cité. Et Franck Ferrand le reçoit cet après-midi. Bonjour Franck.
Bonjour Anissa, bonjour à tous. Vous connaissez Daniel Bilalian, évidemment, comme journaliste sportif et patron des sports à France Télévisions. Son ouvrage sur l'évasion des prisonniers de guerre est tout simplement passionnant. Vous savez, ça me rappelle ces histoires que j'adorais, les histoires de Pierre Bellemare qui nous racontait des exploits comme ça, des exploits quotidiens de la part d'anonymes. On est exactement dans ce cadre-là, ça va nous permettre de nous pencher sur le cas de ces millions de Français qui, entre 40 et 45, ont connu la captivité en Allemagne sous des formes diverses, bien entendu. Alors avant d'y venir, je voudrais vous raconter ce qui a commencé il y a 76 ans, jour pour jour, puisque nous sommes le 10 mai aujourd'hui. C'était le 10 mai 40, à savoir la submersion des armées françaises par l'invasion allemande.
Et tout à l'heure, à la fin de l'émission, Franck vous répondra à la question de Jérémy sur l'origine du port du béret et du képi dans les armées.
Bon, on va rester dans la note, si je puis dire. Pour le moment, nous sommes le 10 mai 1940. La France s'apprête à subir la plus saisissante agression de son histoire.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand.
C'est un véritable coup de tonnerre qui tout à coup engendre la panique générale, branle-bas de combat. À 6h du matin, quelques minutes même avant 6h, les batteries de téléphone s'affolent au vieux fort de Vincennes, dans le PC du généralissime des armées françaises. Cette fois, ça y est, c'est officiel, les rapports qui depuis minuit faisaient état de mouvements de troupes allemandes sont plus que confirmés. Les Allemands sont en train de déferler sur le Luxembourg, la Belgique et la Hollande. Ils violent la neutralité. Pour prendre conscience de l'électrochoc que ça engendre, il faut revenir quelques jours en arrière au début de ce mois de mai 40. À l'époque, ça fait déjà 8 mois que la France et la Grande-Bretagne ont déclaré la guerre à l'Allemagne dans la foulée de l'invasion de la Pologne par les troupes d'Hitler. 8 mois qu'on est donc en guerre, sans l'être vraiment. C'est ce que le romancier Claude Jamet va appeler la drôle de guerre, une sorte de veillée d'armes dans laquelle on a fini par s'installer. Pour un peu, on en viendrait même à cette époque à douter de la réalité d'un conflit qui pourrait fort bien, se dit-on de plus en plus, qui pourrait trouver son règlement par voie diplomatique. Pour les quelques 5 millions de jeunes Français mobilisés, l'heure est à la vie militaire, alors avec les manœuvres, les popotes, les petits arrangements, les roulements, les permissions, le théâtre aux armées également, qui est particulièrement actif. Bref, vous m'avez compris, le cœur n'est pas à l'affrontement. Ces forces armées françaises se trouvent placées sous le commandement du généralissime Maurice Gamelin, qui a 67 ans à l'époque et dont l'état-major donc se trouve en partie de manière souterraine au château de Vincennes, du côté du bois de Vincennes. Les conceptions stratégiques du généralissime sont essentiellement défensives. Elles doivent être regardées naturellement comme un héritage de la Grande Guerre. Je vous rappelle que nous sommes seulement 21 ans après l'armistice de 1918 et qu'au moins 2 générations de Français ont vécu ces dernières décennies dans le souvenir horrifié du carnage de la Grande Guerre. Juste une petite parenthèse, mais j'étais à Verdun là il y a quelques semaines. J'ai eu l'occasion d'aller voir tous ces champs de bataille, de descendre dans les galeries de mines, etc. L'horreur absolue de ce qu'on y découvre fait mieux comprendre à quel point en 1939-40 on n'avait pas du tout envie de recommencer. Je ferme la parenthèse. Gamelin dispose en tout d'une centaine de divisions dont il a placé près des 2/3 derrière la ligne Maginot, ce qui est en soi un paradoxe, puisque la ligne Maginot a été créée précisément pour libérer des troupes. Vous savez par ailleurs que cette ligne se termine à peu près au niveau de la frontière belge, comme une invitation lancée aux Allemands à passer par ce pays officiellement neutre. Du reste, disons-le clairement, la question belge est au cœur de la réflexion stratégique française. En effet, notre état-major, qui a mûri, qui a médité l'expérience de 14-18, est bien décidé cette fois à protéger coûte que coûte le bassin industriel et minier du Nord. Et c'est pourquoi, en octobre 39, on a envisagé de faire entrer l'aile gauche de l'armée française en Flandre. En novembre, à la demande de Daladier, on a même accepté de pousser jusqu'à la plaine de Brabant. Qui est ce Daladier? C'est évidemment l'homme des accords de Munich à l'automne 38, un radical emblématique dont le goût du compromis reflète assez bien la mentalité dominante. C'est l'homme de l'attentisme. « Je ne fais pas la guerre », répète-t-il en référence au fameux « Je fais la guerre » de Clémenceau. C'est un homme très intelligent, Daladier, sans aucun doute, mais Paul Valéry disait à la même époque, je le cite, « Une trop grande intelligence est plus nuisible qu'utile dans la conduite des affaires. Elle s'accommode mal du désordre des événements. » C'est un problème, cette mentalité attentiste. Nous allons y revenir tout à l'heure. Mais ce n'est pas le principal problème, car le principal problème, il est tout bêtement matériel. Les troupes françaises sont notoirement sous-équipées. Nos forces sont insuffisantes. Les récents soubresauts politiques, il y a eu le Front populaire et ses réformes, mais aussi le retard industriel du pays par rapport à l'Allemagne nazie, tout ça va peser lourd dans la bataille qui s'annonce, ou qui, en ce début de mois de mai 40, n'en finit plus de s'annoncer. Dites-vous que 5 millions de Français travaillent dans l'industrie contre 14 millions d'Allemands à l'époque. Le rapport des industries lourdes est de 1 contre 4. La France produit 20 millions de tonnes d'acier par an quand l'Allemagne en sort 68 millions. Alors, en nombre d'hommes, les alliés auraient plutôt l'avantage, puisqu'au 10 mai 40, 2 800 000 hommes se battent du côté allié contre 2 750 000 du côté allemand. Les blindés aussi sont un petit peu plus nombreux côté allié, mais ces blindés ne sont pas du tout secondés aussi efficacement, puisque les Allemands disposent de 4 000 avions hyper efficaces, nous 3 200, et qui sont nettement moins bien utilisés. Daladier a tout de même fini par être remplacé. Le 21 mars 40, Paul Reynaud est devenu président du Conseil. Alors lui est nettement plus dynamique, il a compris l'intérêt de reprendre l'initiative sur le papier, parce qu'il se garde bien d'adopter une attitude offensive. Toujours ce spectre de la Grande Guerre. Paul Reynaud présente du moins l'avantage d'être conscient d'un certain nombre de paradoxes de la stratégie française, à commencer par le plus criant. Comment, se demande-t-il, peut-on à la fois vouloir se retrancher derrière la ligne Maginot et accorder sa protection à toutes sortes de petits alliés qui la demandent en même temps? Le plus important, c'est que Paul Reynaud est un homme de la modernité. Contrairement à un certain nombre de ses collègues, lui a compris que l'on abordait ce nouveau conflit avec une guerre de retard. Il a lu, il a adopté les conceptions d'un certain Charles de Gaulle sur la guerre de mouvement. Il fera du reste bientôt du bouillant colonel devenu général 2 étoiles, son sous-secrétaire d'État à la guerre. Pour résumer, on pourrait dire que Reynaud est partisan de l'action, là où Daladier privilégiait l'attente. Est-ce que c'est une action opportune? Ça, c'est la bonne question, car au moment de l'offensive allemande du 10 mai, en poussant à toute force en faveur de l'intervention en Belgique, il n'est pas certain que Reynaud ait rendu en vérité un bien grand service au pays.
Du concerto pour piano numéro 5, L'Empereur de Beethoven sur Europe 1. Cet après-midi, Franck Ferrand, vous avez décidé de nous raconter ce qui s'est passé il y a exactement 76 ans, le 10 mai 1940. Le Führer met fin à la drôle de guerre et lance ses armées sur les Pays-Bas, la Belgique et la France.
Voilà, et que faisons-nous? On voit cette offensive arriver le 4 mai, le 5 mai 40. Que fait le général Gamelin? Eh bien, il se terre toujours dans le PC souterrain de Vincennes. Je cite les mémoires de guerre du général de Gaulle. Dans sa Thébaïde de Vincennes, le général Gamelin me fit l'effet d'un savant combinant en laboratoire les réactions de sa stratégie, écrit de Gaulle. Au fond, ce n'est pas l'intelligence qui fait défaut à tous ces chefs, c'est le caractère, c'est la motivation, la hargne en somme. Or, de la hargne, inutile de vous dire que de son côté, Hitler en a à revendre. Son offensive est claire. Lancé d'un seul coup, va prendre les Français de court totalement. C'est en tout cas ce que nous apprennent les journaux, les mémoires, les correspondances du temps. C'est ce que j'ai moi-même eu l'occasion de constater souvent à l'époque où je recueillais les souvenirs de témoins militaires de cette campagne de France. Et pourtant, que d'avertissements, que de signes avant-coureurs. Je vous donne quelques exemples. Dès le 30 avril, un attaché militaire en Suisse adresse au deuxième bureau, donc au renseignement militaire, la dépêche suivante, je la cite. « L'Allemagne attaquera entre le 8 et le 10 mai. Stop !» C'est écrit noir sur blanc. Hein. « Axe principal d'effort, Sedan. Stop !» « Occupation prévue de la Hollande, de la Belgique, du nord de la France en 10 jours. Stop !» Occupation totale de la France prévue en un mois. Si ça, c'est pas une information. Le 5 mai, c'est au tour du Vatican d'adresser à Paris à peu près la même dépêche. Et dans la nuit du 7 au 8 mai, un aviateur français qui était occupé à balancer des tracts anti-nazis sur la Ruhr, vous savez que c'était la grande habitude, cet aviateur survole tout un serpent lumineux. Il prend le risque de perdre de l'altitude pour aller mieux voir et il découvre une colonne de blindés qui s'étend sur plus de 100 km. Évidemment, il en réfère par la voie hiérarchique. Le 8 mai, notre ambassadeur auprès du Saint-Siège insiste. Le pape a transmis des informations alarmantes. Du reste, à Vincennes, Gamelin a eu connaissance dès le 20 avril du projet d'Hitler contre la Meuse. Et les fiches du deuxième bureau continuent de tomber. Elles s'accumulent à compter du 1er mai. Toutes, je dis bien, toutes annonce une offensive allemande entre le 8 et le 10 mai. Eh bien, croyez-le si vous le voulez, tout ça ne va donner aucun effet, aucun avertissement, aucun ordre d'alerte, rien. C'est à peine croyable, l'Allemagne se désagrège, Péror, au même moment, dans l'immédiat entourage de Gamelin, le général Colson. Voilà ce qu'on pense. Pire que cela, les permissions accordées aux soldats qui avaient été suspendues au moment de l'invasion de la Norvège le 14 avril ont été rétablies le 26. Résultat, au matin du 10 mai, 12% des officiers et des soldats mobilisés se trouvent de repos dans leur famille et donc obligés d'aller rejoindre leur unité dans le plus parfait désordre. Certains ne vont pouvoir se présenter que le 14 mai. Bref, l'armée française est complètement désemparée par ce qui s'annonce. Rien n'a été prévu. En faisant un peu d'histoire-fiction, on pourrait dire que l'offensive allemande intervient juste un peu trop tôt. Paul Reynaud devait réformer la conduite des opérations. Il s'apprêtait à remplacer Gamelin par un général plus efficace. Il s'en serait fallu de quelques heures, peut-être. Mais en tout cas, c'est ainsi que les choses se sont jouées. Le 10 mai 40, à 4h du matin, le téléphone retentit donc sur la table de nuit du président du Conseil. Il apprend par l'ambassadeur de Belgique l'imminence de la bataille. On peut dire qu'il est un peu tard pour renvoyer Gamelin, pour remplacer l'horloger qui a précisément monté le mécanisme de l'opération belge. Le généralissime va évidemment être maintenu en fonction. Le mot d'ordre est bien mou avec cela. Il vaut pour les Français et l'ensemble des alliés. Alors je le cite ce mot d'ordre. Courage, énergie, confiance. Comme l'a dit il y a 24 ans le maréchal Pétain, nous les aurons. Entre parenthèses, Pétain à l'époque avait dit « on les aura ». C'était plus martial. Bref, la guerre n'est pas gagnée, automatiquement. Un peu comme un robot. Gamelin lance la fameuse manœuvre d'Il, du nom d'une petite rivière à l'est de Bruxelles. Il s'agit d'aller protéger Bruxelles, Anvers, tout le bassin minier. C'est donc l'entrée en Belgique sous les acclamations de la foule. La 5e armée de Giraud a reçu pour mission presque audacieuse de monter le long du littoral belge pour aller faire la jonction avec les forces néerlandaises. Il est temps. En vérité, si l'on veut résumer à la mi-journée du 10 mai la situation du côté des alliés, car il existe tout un petit corps expéditionnaire britannique, côté des Français, les deux tiers des troupes qui ne sont pas de permission sont stationnés sans utilité derrière la ligne Maginot et l'essentiel du reste va bientôt se retrouver en Belgique. Vous voyez comme c'est brillant. Quant au secteur des Ardennes, il se retrouve confié à 17 divisions seulement, mais on s'appuie à l'époque sur ce vieux précepte d'état-major. Dans les Ardennes, la Meuse se défend toute seule. Il est vrai que le secteur est objectivement difficile à franchir. Difficile, mais pas impossible. Les Allemands vont le prouver dans les jours qui viennent. Car, de bout en bout, le grand quartier général allié s'est trompé sur la stratégie adoptée par Hitler. Au départ, à l'issue de sa victoire sur la Pologne, victoire totale, le Führer avait accepté un plan très proche de celui de von Schlieffen en 14. Le 9 octobre 39, la directive numéro 6, le plan jaune comme on l'appelait, préconisait l'invasion du Benelux et comme dans le plan Schlieffen, l'accent était mis sur l'aile droite de l'armée allemande, la plus à l'ouest si vous voulez. Seulement voilà, entre-temps, cette stratégie a changé. L'adjoint du chef d'état-major, le général von Manstein, est venu à Berlin dans l'immense bureau de la nouvelle chancellerie. Il a proposé à Hitler un nouveau plan, plus original, plus audacieux. Il s'agit cette fois de dégarnir au contraire l'aile droite au profit du corps central de l'armée d'invasion. On peut dire qu'il n'y a plus de rencontre frontale maintenant avec l'ennemi. L'armée allemande doit couper les troupes entrées en Belgique de tout ce qui se trouve maintenant dans le reste de la France. On va couper ces troupes belges de l'armée française. Le corps central effectuera une percée décisive à travers le massif ardennais. Il franchira la Meuse entre Sedan et Dinan et puis fera ensuite un virage à l'ouest vers Calais, Boulogne et Dunkerque. Précision fondamentale, toute cette manœuvre s'appuie sur le couple avion blindé. À l'époque, on dit les forces aériennes et mécaniques. Or, la supériorité de la Luftwaffe, la supériorité de l'aviation allemande est écrasante. Ce qui ne veut pas dire, attention, qu'il s'agisse pour autant d'une promenade de santé. Ça, il faut vraiment insister là-dessus. À ce stade, pour les Allemands, le danger est encore très grand et l'audace est à la mesure du danger. On s'est battu en 1940, c'est ce que nous allons voir dans un instant.
La submersion des armées françaises par l'invasion allemande, nous sommes en mai 1940 et c'est le récit qu'a décidé de vous raconter cet après-midi Franck Ferrand. Vous pouvez bien sûr réagir à cette émission, poser vos questions à Franck Ferrand et son invité. Rendez-vous sur les réseaux sociaux, la page Facebook, au cœur de l'histoire, ou sur Twitter avec le hashtag ACDH. Franck Ferrand revient dans un instant.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1.
Nous sommes le 10 mai 1940 dans ce que l'on va appeler la débâcle de 1940 avec l'attaque des Allemands sur la France, les Pays-Bas et la Belgique.
Cette débâcle qui va faire tant de prisonniers. Alors pour l'instant, nous sommes encore le 10 mai. Voyons en quelques mots ce qui se passe au Benelux. Des para-allemands s'emparent des faubourgs de Rotterdam dont le centre est rasé littéralement par les bombes. D'autres neutralisent les défenses du canal Albert à l'ouest de Liège. Et on peut dire qu'au moment où l'avant-garde de l'armée Giraud, vous savez qu'on avait envoyé là-haut, arrive à Bréda, les Pays-Bas sont déjà perdus, le Luxembourg est occupé, les Belges n'ont pas pu tenir face à la poussée allemande, les opérations vont sonner, vont sonner le glas. En tout cas, c'est un désastre, disons-le, pour les Français. Mais c'est plus au sud que la surprise est totale. C'est là que va agir ce fameux couple avion blindé, les Stuka, les Panzer, qui vont permettre à Guderian cette percée décisive à Sedan. Rommel avance déjà au nord de Dinan et dès le 20 mai, le plan Manstein se révélera un succès total. La veille, le président du Conseil, Paul Reynaud, s'est enfin décidé à remplacer Gamelin par Weygand. Il a fallu plus d'une grosse semaine pour le faire quand même. Weygand arrive simplement de Syrie, donc il ignore l'essentiel de la situation sur le terrain. C'est comme s'il fallait tout reprendre à zéro. Et c'est à ce moment-là que les Anglais, qui sont très inquiets devant l'ampleur du désastre, décident de sauver leur corps expéditionnaire en le faisant refluer vers Dunkerque. Entre le 28 mai et le 4 juin, ce seront quelque 220 000 Britanniques et 110 000 Français aussi du reste, qui s'embarqueront sur les plages de Dunkerque grâce aux efforts conjugués des marines britanniques et françaises. Et quand je dis les marines, ce n'était pas seulement des bateaux de guerre, loin s'en faut. Mais la guerre a déjà basculé. Le 15, l'armée néerlandaise a capitulé. Le 28, l'armée belge en fait autant. Le roi des Belges est placé en forteresse. La reine de Hollande a pu gagner Londres. On parle bien là de capitulation militaire. Pas d'armistice politique, c'est une distinction importante et qui en France va focaliser l'essentiel de l'attention des responsables. Alors Weygand, tant bien que mal, a tenté de stabiliser un front entre la ligne Maginot et la mer du Nord, en gros de Montmédy à Abbeville. Mais pour y parvenir, il faudrait une intendance d'élite. Or, l'intendance en 40 ne suit pas. Et on peut même dire qu'elle ne suit pas du tout. On manque de tout, on manque du minimum dans les divisions. Or, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que le nord de la France est la proie du fameux exode des populations civiles dont nous parlions il y a quelques mois. Imaginez 8 à 10 millions de personnes sur les routes, c'est une vraie catastrophe. On peut dire qu'à ce moment-là, on est à un doigt de la défaite totale des alliés. Seulement le 24 mai à midi, contre toute attente, Hitler va donner l'ordre à ses généraux d'arrêter la progression. Ça paraît incroyable, mais c'est comme ça. Hitler est convaincu en fait que les Anglais qui sont aux abois vont signer une paix avec lui. Et c'est un calcul qui peut être raisonnable. Ce qu'Hitler ne peut pas prévoir, c'est que le cabinet britannique va changer et que le nouveau Premier ministre Winston Churchill s'opposera bec et ongles à toute idée de paix. On peut dire que dans cette affaire, Hitler aura tout prévu, sauf le caractère de Churchill. Après 2 semaines de répit, l'assaut allemand va donc reprendre. les 5 et 6 juin, reprendre et se heurter à la résistance acharnée des soldats français. Ça, il faut quand même le dire, hein, j'en touchais un mot tout à l'heure, mais il y a une vieille légende selon laquelle en 40, les Français ne se seraient pas battus. Rien n'est plus faux. Les combats de mai-juin 40 vont faire côté français 92 000 morts, plus de 250 000 blessés, dont beaucoup sont gravement, très grièvement blessés. Il y a eu côté allemand 16 000 morts et 32 000 blessés. C'est une saignée terrible. Les Français ne sont pas restés bras croisés tandis que les Allemands envahissaient le pays. Et du reste, certaines unités se sont battues victorieusement et avec une bravoure qui, en quelque sorte, sauve l'honneur. Néanmoins, c'est un fait, la supériorité matérielle des Allemands se révèle décisive. Rommel est arrivé aux Andelys dans une boucle de la Seine dès le 9 juin. Il empêche le lendemain un rembarquement allié à Saint-Valery-en-Caux. Et là, il y a eu des combats qui sont d'une violence atroce. Et on commence déjà à constituer nos colonnes de prisonniers. En Champagne, les panzers de Guderian ont gagné Reims. Le 10 juin, l'Italie fasciste entre en guerre aux côtés de l'Allemagne. Vous allez me dire, il est temps, maintenant que le gros du travail est fait. Ça y est, voilà les Italiens. Et côté français, le 12 juin, le mot d'armistice est prononcé pour la première fois au Conseil des ministres. Alors désormais, il va y avoir deux parties, on sait ça, on l'a beaucoup raconté, vous savez. D'un côté, le parti des militaires, Végan, Pétain, qui veulent un armistice afin de rejeter la responsabilité du désastre sur les politiques. Et puis, le camp des politiques, si je puis dire, dont Paul Reynaud, qui voudrait continuer la guerre depuis l'Empire colonial, précisément depuis l'Afrique. On sait bien, malheureusement, qui va l'emporter. Le 14 juin, ça c'est une date funeste, Paris est déclarée ville ouverte. Le 16, Winston Churchill propose par l'intermédiaire de De Gaulle la conclusion d'un pacte d'union franco-britannique qui sera finalement rejeté par le gouvernement français. Le gouvernement français a pris son parti de la défaite, disons-le. Les Allemands sont à Dijon, à Besançon, à Caen. Les partisans de l'armistice ont gagné. Bientôt, Reynaud sera remplacé à la tête du gouvernement par le maréchal Pétain. On se rappelle le discours de ce dernier à la radio le 17. « C'est le cœur serré que je vous dise aujourd'hui qu'il faut cesser le combat. » Cesser le combat et, devrait-on toujours ajouter, abandonner à leur sort quelques 2 millions de prisonniers. Voilà le point sur lequel j'aimerais que nous nous attardions cet après-midi en compagnie de mon invité. Bonjour Daniel Bilalian.
Bonjour.
Alors ces 2 millions de prisonniers de guerre, on va les voir dans des conditions épouvantables regagner un certain nombre de camps. Et puis la plupart vont vivre maintenant une longue captivité en Allemagne. Quelques-uns, une centaine de milliers au total, vont tenter de s'évader. C'est ce que nous allons voir avec vous dans un instant.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
Et cet après-midi, Franck Ferrand, vous avez décidé de consacrer cette émission aux prisonniers évadés de guerre avec votre invité, Daniel Bilalian, directeur général adjoint en charge des sports à France Télévisions et auteur des Évadés, les exploits des prisonniers français durant la Seconde Guerre mondiale, paru aux presses de la Cité.
Je pense qu'un certain nombre de nos auditeurs, Daniel Bilalian, se demandent ce que vous êtes allé faire sur ce terrain des prisonniers de guerre. Alors, ce qu'il faut préciser, c'est d'abord que vous aviez fait cette enquête il y a plus de 30 ans, à une époque où il y avait encore énormément de témoins vivants qui pouvaient raconter les extraordinaires exploits anonymes dont ils avaient été les auteurs, et que par ailleurs votre propre père était prisonnier de guerre et qu'il s'est très vite évadé.
Absolument. Moi, mon père, qui avait échappé au génocide arménien, qui était arrivé en France avant la guerre, n'a jamais entendu les histoires qui disaient « mais les Allemands vont rentrer chez eux et puis vous allez rentrer chez nous ». En fait, les Allemands sont rentrés chez nous et nous, on est partis chez eux. Et donc, voilà. Mon père n'y a pas cru. Il a été fait prisonnier dans la région de Troyes, dans l'Aube. Quelques semaines après, il a été voir le commandant du camp, qui était un colonel, et à qui il a dit « vous allez maintenant arriver à Paris, il faut que vous ayez un costume extraordinaire », parce que comme tout Arménien, mon père était tailleur.
Hein,
et il lui a fait un très beau costume pour aller à Paris, puis il en a profité pour s'en faire un pour lui, et il a regagné très rapidement la capitale.
C'est-à-dire que grâce au costume civil qu'il s'est fait, il a pu se sauver, en
Absolument.
Quelque sorte. Alors, il fait partie de ceux qui se sont évadés, avec succès. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que d'abord, sur la masse gigantesque des prisonniers, peu ont tenté l'évasion, disons-le. Alors, il faut peut-être revenir sur cette masse, justement, parce que les images de l'exode sont très fréquentes. On nous montre souvent l'image de ces populations civiles qui partent avec armes et bagages, si je puis dire, sur les routes de France, comme ça, avec la charrette ou avec la voiture. Bon, on oublie, et puis qui sont malheureusement souvent la cible des mitraillages allemands. Mais on montre montre moins souvent ces colonnes de prisonniers qui s'acheminent lentement, avec des chaussures parfois complètement bousillées, quand il y a encore des chaussures, hein, beaucoup sont pieds nus, et marchent comme ça pendant des kilomètres, pendant des heures chaque jour, vers l'Allemagne, vers l'Est. Ça a été un traumatisme considérable, ça.
Oui, parce que, si vous voulez, je pense que l'armée allemande, vous l'avez expliqué tout à l'heure, est arrivée avec une théorie, celle du blindé, qui fonçait dans la nature, et on s'occupait ensuite d'occuper le terrain par l'infanterie.
Le Blitzkrieg, hein, c'est-à-dire la guerre éclair.
Et beaucoup de soldats français se sont retrouvés sans commandement sur le bord des routes, marchant vers une destination inconnue, dans un état d'incertitude totale. Et ces jeunes gens étaient perdus. Il faut savoir que moi, ce qui me fascine toujours, c'est que un pays comme la France, qui était la deuxième puissance mondiale, a disparu en 6 semaines. Imaginez, on est le 10 mai aujourd'hui. Et au 18 juin, c'est fini.
Ça va très
vite. C'est quelque chose que je ne me suis jamais expliqué. Et c'est pourquoi je me suis passionné pour cette période, parce que je voulais comprendre comment un pays pouvait disparaître en si peu de temps.
On peut dire que c'est un basculement, ce qui s'est passé, tout simplement. Alors, on ne comprendrait rien à cela si l'on n'avait pas constamment à l'esprit le récent traumatisme de la Première Guerre mondiale, encore une fois. N'oublions pas que les Français de 1940, pour une très grande partie d'entre eux, ont vécu la Première Guerre mondiale, qui a été un traumatisme quasiment sans exemple, et que donc ils ne veulent pas revivre les choses. Et donc on y est allé, même si on s'est battu, encore une fois, et je pense que c'était bien de le dire et de le rappeler, on ne le dira jamais assez, mais même si on s'est battu, on y est allé à contre-cœur, il faut dire les choses.
Je pense que ces colonnes de prisonniers qui montaient vers l'Est avaient aussi en tête les atermoiements, pour ne pas dire la gabegie de l'état-major, qui un jour leur disait d'aller dans un sens, qui un autre jour leur disait d'aller dans un autre ordre, contre ordre en permanence.
Aucune intendance, c'est-à-dire que les gens n'avaient pas de quoi se nourrir. On est obligé de tuer certains des chevaux pour nourrir les régiments quand même. Hein.
Et en même temps, une efficacité de l'armée allemande, on parlait de la Blitzkrieg à l'instant, mais l'organisation était terrifiante. Je vais vous donner un exemple. Mon père s'évade, et moins d'une semaine après, alors qu'il y a près de 2 millions de soldats français prisonniers, il y a une patrouille de l'armée allemande qui vient au domicile de mes parents à Paris. Heureusement, mon père n'est pas là, et qui est à la recherche de mon père. Alors qu'ils ont près de 2 millions de soldats sur les bras, ils sont à la recherche de monsieur Krikor Bilalian.
Ça, c'est fou. C'est
fascinant. L'organisation à ce point-là, extraordinaire, ouais. Extraordinaire.
Ça, c'est la surefficacité allemande qui a heureusement pour contrepartie un certain aveuglement dont vont beaucoup jouer les candidats à l'évasion, bien entendu. Alors avant l'évasion, il y a le parquage, si j'ose ainsi m'exprimer. Hein. On va installer tous ces prisonniers dans des camps. Il faut expliquer ça.
Alors, Les soldats français, après l'armistice, pensaient rentrer en France, retourner chez eux, puisque c'était l'armistice. Mmh. C'est ce qui s'est passé exactement le contraire. Je disais tout à l'heure, les Allemands sont rentrés chez nous, on est partis chez eux. Ils ont été installés principalement dans les stalags, dans les oflags pour les officiers supérieurs, selon les conventions de la guerre. Et puis ensuite, petit à petit, au fur et à mesure que la guerre s'est développée, qu'il y a eu l'offensive à l'Est, on a eu besoin de soldats aussi pour aller dans les fermes, pour remplacer les maris qui étaient partis ou les fils qui étaient partis à la guerre. Alors ensuite, donc, on a un peu désengorgé les oflags, non pas les oflags parce que les officiers, non, il y a une loi, mais les stalags, pour les installer soit dans les usines, dont les ouvriers avaient disparu pour partir au front, soit dans tous les établissements fermiers.
Et puis viendra ensuite la troisième étape, si je puis dire, qui sera celle du travail obligatoire que les Allemands instaureront. Alors on enverra des populations.
Absolument. Alors là, le STO, le travail obligatoire, c'est normalement, la guerre s'éternise, donc pour que des soldats français prisonniers puissent rentrer au pays, notamment des pères de famille, etc., on engage un certain nombre de jeunes français à partir en tant que travailleurs volontaires en Allemagne.
Alors, je vois que les messages arrivent via Facebook, via Twitter, etc. Ils sont nombreux. C'est vrai ce que dit Caroline, que nous avons tous un grand-père ou un grand-oncle, etc., qui a été prisonnier de guerre. Et beaucoup ont tenté de s'évader. C'est le sujet même de votre ouvrage. Alors, certains le font tout de suite. C'est-à-dire qu'ils s'évadent au moment même du transfert. Ça commence très vite. Hein.
Absolument, parce que il faut imaginer, il y a des images qui le montrent, sur le bord des routes, il y a des centaines de milliers de soldats français. La garde allemande, elle est submergée elle-même par sa victoire. Donc, il est très facile à ce moment-là de s'évader. Peu en profiteront, parce que justement, il y a toujours cette idée qu'on va rentrer, c'est fini. Et ensuite, arriver dans les camps, alors c'est le problème.
On se rassure en se disant, dès que ce sera signé, dès que les accords seront faits, on nous renverra chez nous.
Voilà, parce que là, on est encore dans une guerre européenne, j'allais dire une guerre franco-britannico-française et allemande. On n'est pas encore dans la guerre mondiale. La guerre mondiale, c'est après l'invasion de la Russie et l'arrivée des soldats américains dans la guerre. Et donc, ces hommes vont partir. Et vous le disiez tout à l'heure, À peine 100 000 vont tenter leur chance. Alors, très rapidement, il y a ceux qui ne pensent qu'à ça et qui se disent « moi je n'y crois pas, un peu à la manière de mon papa » et qui se disent « ça, c'est pas possible ». Mais ceux-là sont assez peu nombreux, assez peu nombreux.
Ils sont très minoritaires.
Assez peu nombreux. Et puis, il faut imaginer que aujourd'hui, tout le monde voyage. Hein, pour 40 euros, vous allez au fin fond de la Chine. À l'époque, l'Allemagne, quand vous êtes transformé, l'Allemagne, c'est le fin fond de la Chine. Personne ne voyage. Les congés payés, c'est 1936. Mais non, quand on va en vacances, c'est chez ses parents, quand on y va. Donc, en Allemagne, il y en est au bout du monde. On ne connaît rien des Allemands. En tout cas, sauf la dernière guerre mondiale. Mais comme on n'est pas rentré chez eux, on ne sait pas comment ils vivent. Donc, il y a ce dépaysement. C'est ça qu'on oublie. Et les soldats français qui sont là-bas ignorent tout de ce pays.
Accumulation de traumatismes. Il faut se remettre dans l'état d'esprit de ces gens, encore une fois, qui ont beaucoup souffert d'ailleurs pendant le fameux transfert, qui sont très mal nourris, qui sont très mal traités, disons les choses. Absolument. Qui sont-ils, ces prisonniers français? Est-ce qu'on peut faire une sociologie des stalags de l'époque?
Bon, je pense que c'est assez partagé. Il y a effectivement une énorme population rurale. Il y a... Sans discernement, je pense que toutes les couches sociales sont représentées. Il n'y a pas vraiment de distinguo. Alors dans les camps, tout de suite, ceux qui prennent les affaires en main sont souvent les instituteurs, les professeurs, qui essayent d'organiser la vie sur place de façon à ce qu'on s'ennuie un petit peu moins, etc., etc., etc.
Alors, ce qu'il y a de fascinant dans votre ouvrage, Daniel Bilalian, ce sont les cas précis, ce sont les exemples. On suit la trajectoire de chacun comme une aventure exaltante qui finit parfois bien et qui finit souvent mal d'ailleurs. Certains ont tenté un grand nombre de fois de s'évader. Évidemment, pour les récidivistes, le traitement était d'autant plus dur. Nous venons à tout cela dans un instant.
L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand. Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
Les exploits des prisonniers français durant la Seconde Guerre mondiale, paru aux presses de la Cité. C'est le livre de Daniel Bilalian que vous recevez cet après-midi, Franck Ferrand. Il est directeur général adjoint en charge des sports à France Télévisions.
Comment avez-vous rencontré tous ces témoins, Daniel Bilalian?
Écoutez, j'avais une trentaine d'années quand j'ai rencontré le président de la Fédération des évadés de guerre. Ils étaient encore très nombreux à l'époque, dans les années 80. Et chacun avait son récit. Et ce président était très intéressé par ma démarche. Il a dit, si vous, très jeune, vous racontez, vous rassemblez les récits, ça évitera les batailles internes et tout le monde sera très content. Parce que chacun avait l'idée d'un livre en poche, mais n'arrivait pas à le faire publier. Il a dit, ça va être fantastique, comme ça, on va réconcilier tout le monde.
Et ce qui est très bien, c'est que vous partez systématiquement des cas. C'est-à-dire que vous nous racontez les histoires. Hein. Ce n'est pas du tout un ouvrage généraliste sur les évasions.
C'est
une collection d'histoires incroyables. À la fin de la guerre, nous dites-vous, pour un d'entre eux qui s'appelle Yves Joannick, il aura totalisé 7 tentatives d'évasion. Il ne retrouvera la liberté qu'après la capitulation allemande. Mais ses aventures résument ce qu'ont vécu, souffert, osé les évadés français pendant la Seconde Guerre mondiale.
Oui, parce que ce dont on ne se rend pas forcément compte, c'est du courage qu'il a fallu. Un courage au quotidien, un courage silencieux, mais un réel courage. On est au milieu d'un pays qui est surarmé, qui est mobilisé, où tout le monde observe tout le monde.
Il
faut savoir, par exemple, que dans l'Allemagne nazie, beaucoup de prisonniers qui avaient parfaitement réussi leur évasion, costume civil, etc., se sont fait reprendre sur des détails. En Allemagne, par exemple, on ne se balade pas les mains dans les poches, il n'y a qu'un Français pour ça. On va d'un endroit à un autre, très 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 occupé. En Allemagne, on se fait reprendre, on est parfaitement installé dans le train, rien ne se passe et on vous arrête. Pourquoi? Vous avez votre alliance à la main gauche alors que dans l'Allemagne protestante, on a l'alliance à la main droite. Donc il y a
Le nombre de petits détails auxquels il faut songer.
Comment ne pas avoir l'air d'un Français? Dans l'Allemagne nazie, comment ne pas avoir l'air d'un Français? C'est-à-dire de quelqu'un qui, par exemple, vous attendez un train, vous baladez autour de la gare, ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Donc le policier, à la plus grande surprise du prisonnier, il dit « Vous êtes évadé. Comment vous avez vu ?» Bah, vous vous promenez. Vous vous promenez.
Certains vont utiliser leur connaissance de la langue allemande pour essayer de se faire passer pour des Allemands. Ça leur sert à eux et ça sert à leurs camarades aussi, hein, bien entendu.
Alors, il y a une histoire extraordinaire. C'est dans un train, un soldat allemand est en train de raccompagner un soldat français prisonnier évadé. Et il s'arrête de gare en gare et demande des renseignements au chef de poste de la gare, au chef de gare. Ils reprennent des billets, etc., etc., etc. Et finalement, ils se font prendre à la frontière de la zone occupée.
Alors qu'ils ont fait beaucoup de chemin.
Ils ont fait au moins 200 ou 300 kilomètres en changeant 10 à 15 fois de train sans jamais se faire prendre parce qu'il est en train de raccompagner ce prisonnier. Et ils se font prendre à la frontière française parce que le soldat allemand, ou celui qu'on croit être un soldat allemand, parle à un officier, lui parle d'un stalag qui est dans le coin alors que lui-même en est l'un des chefs, et il dit non, c'est pas possible, c'est pas comme ça que ça se passe, il les arrête. En fait, c'était un soldat français parfaitement bilingue qui parlait l'allemand et qui faisait semblant de raccompagner un prisonnier français, et tout doucement tous les deux allaient tranquillement vers la France.
Alors j'ai cité tout à l'heure en vous citant du reste le nom d'Yves Jouannic, la méthode qu'il avait trouvée lui pour se sauver est tout simplement extraordinaire, elle relève de l'exploit.
Oui, absolument, oui, ça fait partie de ces choses un peu comme, je veux dire, Yves Jouannic et d'autres ont pensé à des choses auxquelles on ne penserait même pas.
Oui, il faut être en situation d'extrême urgence pour penser à ça.
Vous avez par exemple deux vétérinaires qui droguent un cheval pendant plusieurs jours et qui se glissent à l'intérieur de la carcasse de ce cheval pour s'échapper du camp.
C'est quand même incroyable. Hein.
Et moi, ce qui me fascine le plus...
Le cheval, ils le droguent, ils vont...
Le cheval va mourir, ils vont se glisser à l'intérieur, se dissimuler à l'intérieur, et ils vont être emmenés vers la décharge.
C'est agréable. Hein.
Tous les deux. Mais moi, s'il y avait quelques-unes qui me fascinent le plus, il y en a une, c'est un jour, deux soldats français dans un stalag sont appelés pour repeindre une guérite. Ils repeignent la guérite de la porte d'entrée. Ils glissent un de leurs camarades à l'intérieur, ils portent cette guérite sur leur dos à l'horizontale, ils posent la guérite devant la porte et le soldat prisonnier s'évade. Moi, je trouve ça fascinant. Il y a des choses très compliquées. Il y a par exemple une escouade d'une dizaine de garçons qui sont drivés par un des prisonniers, un de leurs copains.
Ah, c'est ce que vous appelez les frères Ripollin.
Les frères Ripollin qui parlent parfaitement allemand. Ils passent des semaines à se confectionner des uniformes allemands. Ils n'ont pas assez de tissu, donc les pantalons, ils se les accrochent avec des épingles à nourrice juste à la hauteur du genou pour qu'on ne voit pas ça dépasser du manteau. Ils teignent leur manteau. Le problème, c'est que le jour où ils s'en vont à la nuit tombée, il commence à pleuvoir et que toutes les teintures commencent à déteindre. Mais en même temps, devant l'assurance de ce garçon qui les accompagne et qui donne des ordres en allemand, ils arrivent à une dizaine d'entre eux à passer par la porte.
Et là, on n'imagine pas ce que ça peut être que de constituer de véritables costumes de théâtre, hein, quand même. Hein. C'est-à-dire qu'il a fallu, vous parliez du détail, mais là, il faut un sens du détail extraordinaire, parce qu'un officier ou simplement un soldat allemand reconnaît au premier coup d'œil un problème sur une décoration ou sur la position
là,
d'un...
Là, par exemple, pour cette épopée, ils avaient passé des semaines à confectionner des boutons
Avec des boîtes de conserve.
Avec des boîtes de conserve, on est contre le travail. Mais je pense que d'être animé par cette idée de partir, ça devait être une façon de mieux vivre la captivité, en disant au moins on fait quelque chose.
Ça donnait un sens.
Ça donnait un sens à ce qu'ils étaient en train de faire.
Mais là, ce qui est terrible, c'est qu'ils ont repeint leur costume. Et puis arrive la pluie, en fait.
Arrive la pluie et ça se met à déteindre. Heureusement, ils ont choisi leur heure pour sortir. On est un peu dans la pénombre et ils arrivent à passer. Je suis toujours fasciné par cette différence, ce compartimentage entre les choses très élaborées et pas élaborées. Par exemple, dans l'Allemagne nazie, vous volez un vélo. Un garçon s'habille en civil, il vole un vélo sur lequel il y a une couronne mortuaire. Il traverse toute l'Allemagne sur ce vélo sans qu'on lui demande jamais rien.
Grâce à la couronne mortuaire.
Et en même temps, une chose aussi, si vous êtes allemand, toujours rasé de très près.
Ah oui.
Toujours rasé.
C'est impeccable.
Ce pays vit à l'heure militaire, il vit à l'heure du nazisme. On ne rigole pas avec ça.
On peut pas dire que les Allemands soient tous rasés de très près aujourd'hui, mais c'était le cas en 1943 ou 1944.
C'était le cas à ce moment-là.
Alors, cette histoire de vélo a fait un peu penser à, évidemment, à la célèbre histoire avec Fernandel, qui est devenue en quelque sorte l'aventure emblématique des évadés de guerre, qui était La Vache et le Prisonnier. Ouais, hein.
Absolument.
Beau film d'Henri Verneuil, si je m'abuse.
Oui, absolument. Mais je pense que dans l'histoire de Fernandel, il y a beaucoup de choses qui ressemblent à des récits que j'avais entendus, notamment la construction de tunnels qui a été repris dans un autre film qui est La Grande Évasion.
Magnifique.
Où pour évacuer la terre, les gens se faisaient des pantalons de golf dans lesquels ils glissaient la terre qu'ils avaient récoltée dans la nuit, et pour faire croire aux Allemands que cette terre n'était pas venue du tunnel, ils avaient dit qu'ils étaient en train de confectionner des potagers, etc., etc., et que donc ils avaient besoin de terre pour faire confectionner ces potagers.
Je vous propose de réentendre un extrait de la bande originale de La Grande Évasion.
Vous avez quelqu'un qui...
de la bande originale du film La Grande Évasion avec, entre autres, Steve McQueen, le film de 1963.
Oui, je disais, Daniel Milagnan, c'est quand même extraordinaire que ce soit les Américains qui aient fait le film emblématique sur cette évasion d'un camp, alors que l'immense majorité des prisonniers concernés étaient des prisonniers français, bien entendu.
Des prisonniers français ou anglais, il y a eu très peu de soldats américains Évidemment. Qui étaient faits prisonniers.
C'est toujours très beau, la préparation d'une évasion, quelle qu'elle soit. On a beaucoup d'exemples, on pourrait en citer, qu'il s'agisse d'évasions militaires ou civiles. Il y a quelque chose, évidemment, c'est une entreprise de très 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 haute technicité, en quelque sorte. Il ne faut rien laisser au hasard. Et puis il y a cette espèce d'extraordinaire suspense, bien entendu. Alors certains s'évadent, et quand ils sont repris, là, c'est le quartier disciplinaire.
On attend de parler d'évasion plus ou moins rocambolesque.
Oui, mais on sourit, mais ça n'est pas toujours souriant.
Ces garçons qui se sont évadés ont fait preuve d'un extrême courage, car vous pouviez aussi être abattu par une patrouille allemande. Si vous étiez déguisé en soldat allemand, là, c'était directement le poteau d'exécution. Donc ces gens, moi, c'est pour ça que je voulais leur rendre hommage. Ces gens n'ont jamais fait parler d'eux, n'ont jamais demandé de décoration, mais ils ont fait preuve une fois dans leur vie d'un courage extraordinaire. Ils me font penser à ces hommes ou à ces femmes de la résistance française.
Tout à fait.
Même celui qui n'a porté qu'un jour un courrier. Il faut savoir ce qu'était l'Allemagne nazie et ce qu'il risquait.
Et les occupants, hein, et la police d'occupation.
Absolument.
Oui, c'est évidemment, ce sont des personnes qui se dépassent elles-mêmes et qui sont, c'est ce qui rend tellement savoureux votre ouvrage, et qui sont des, comment pourrait-on dire, des anonymes,
oui,
qui sont presque Monsieur Tout le Monde néanmoins.
Absolument,
c'est ça.
Absolument.
Est-ce que lorsque vous les rencontriez à l'époque, ils étaient animés d'une forme quelconque de nostalgie à l'égard de ce qu'ils avaient pu vivre?
Bah, je pense qu'ils avaient une forme de...
Je vous dis ça parce que je l'ai vécu, moi, en faisant le même travail.
Une forme de nostalgie parce que je leur rappelais leur aventure.
Non. Et puis leur jeunesse aussi, c'est vrai.
Leur jeunesse, et puis un moment où leur cœur avait battu à une vitesse à laquelle ils n'avaient jamais battu par la suite, parce que ce sont des moments de dépassement, quoi qu'on en dise. Et je pense que pour ces hommes, ce qui me fascinait toujours dans la rencontre avec eux, c'est que à la fois, ils n'en avaient jamais vraiment parlé, mais ils étaient contents que quelqu'un en parle pour rendre hommage, notamment à ceux de leurs camarades qui n'avaient pas survécu ou qui avaient été abattus, comme il y en a eu un certain nombre.
Alors, bien entendu, votre ouvrage recueille un certain nombre de récits d'évadés. Il y a aussi la vie quotidienne de tous ces prisonniers, bien entendu, avec les courriers, avec l'arrivée des colis et leur distribution, qui parfois s'apparentait à une forme de persécution, il faut le dire, parce que on n'était pas tendre avec ces prisonniers de guerre pour beaucoup d'entre eux. Toutes les expériences ont existé, bien entendu. Un mot nous dit Caro sur les 13 Français évadés du château de Colditz, cet Alcatraz nazi. C'est vrai que ça a été une affaire, une opération absolument...
Il y a eu quelques évasions, dont une assez rocambolesque d'un garçon qui avait regardé les allers-retours de la voiture du colonel qui commandait le camp.
Incroyable.
Qui s'est déguisé un soir, qui a retrouvé exactement à la minute près comment il fallait se présenter devant le gardien, et il est parvenu, et il a... Ce qu'il a fait, Marc Dumour, 50 kilomètres plus loin, il a abandonné la voiture et il a mis en Deutschmark une somme correspondante à l'essence qu'il avait dépensée.
C'était une façon très allemande de prendre la fuite. Alors, j'ai de la suite dans les idées, Daniel Milagnan, et nous avons une sorte d'arlésienne dans cette émission depuis le début. C'est le fameux Yves Joannick, dont on n'a pas expliqué qu'il avait réussi à s'accrocher au tringle de freinage des trains. Hein.
Si vous voulez, il y a eu plusieurs périodes dans la manière de s'évader. Au début, on s'est beaucoup évadé sur les tringles dessous les wagons ou au-dessus des toits des wagons, parce que les Allemands n'avaient pas encore compris le phénomène. Ensuite, ça s'est arrêté et ça se communiquait entre prisonniers. Ne fais plus ça, là tu es sûr de te faire arrêter. Et voyager sur les tringles de freinage en dessous des wagons ou dans ces sortes de petits habitacles qui étaient au-dessus des wagons, c'était quelque chose de très dangereux, très très dangereux. Mais surtout en dessous des wagons, vous vous rendez compte, faire 200 ou 300 kilomètres ou 500 kilomètres allongés sur des tringles à peine 20 cm du sol, à une vitesse, les trains roulaient déjà très vite à l'époque, à 100 km/h. Mais en même temps, ce qui les subjuguait, c'est quand ils avaient fait ce parcours et que quand un train s'arrêtait et qu'ils entendaient le nom d'une ville française.
Ah, ça c'était la récompense.
Ça c'était la récompense après tant d'heures et de jours de galère.
Et puis après, il fallait se cacher, pour beaucoup d'entre eux, continuer le combat, mais cette fois, soit dans les forces françaises libres, soit dans les forces alliées,
absolument,
soit dans la résistance, tout simplement.
Absolument.
Daniel Bilalian, Les Évadés, ce recueil des exploits des prisonniers français durant la Seconde Guerre mondiale. C'est un document publié aux presses de la Cité. Merci beaucoup d'être venu nous faire revivre ces aventures.
Et dans un instant sur Europe 1, Franck Ferrand va vous dévoiler les origines du port du béret et du képi dans les armées. C'est à suivre sur Europe 1.
Europe 1, au cœur de l'histoire. Europe 1, au cœur de l'histoire.
Retour aux origines.
Avec aujourd'hui, Franck, une question de Jérémy qu'il vous pose sur le site europe1.fr. Pourriez-vous m'indiquer les origines du port du béret et du képi dans les armées ? Merci beaucoup.
Alors le képi, c'est un dérivé du shako. Vous savez, c'était cette coiffe des hussards à partir du début du 19e siècle. Le shako, coiffe à visière, qui avait une forme cylindrique et qui se rapetissait un peu vers le haut. Cette forme, elle va évoluer avec le temps. Elle devient de moins en moins haute, de moins en moins évasée, si vous voulez. Et puis, en 1843 apparaît le premier képi dans l'infanterie, qu'on n'appelle pas képi d'ailleurs à l'époque, on disait bonnet de police à visière. Et puis bon, avec l'apparition du casque évidemment, on va délaisser le képi sur le terrain. Parce que c'est pas très protecteur comme coiffe, bien entendu. Les cadres continuent de porter le képi, vous le savez. Et puis ça va devenir l'emblème de la Légion étrangère. Alors une de nos auditrices, Françoise, me signale, mais moi je ne le connais pas cet ouvrage. Alors je lui fais tout crédit. Elle me parle d'un ouvrage écrit par un enfant de 11 ans, Charles Daniel Sack, et qui s'appelle « Les képis de l'armée française ». Ben pourquoi pas. Alors le béret, qui autrefois était la coiffure des bergers bernais, vous savez, un couvre-chef en laine, plat, sans bord et qui protège particulièrement bien du soleil mais aussi du vent et de la pluie. Ce béret a été adopté par les chasseurs alpins en 1889. Alors ils ont le grand modèle, on appelle ça la tarte qui peut faire 30 cm de diamètre. La tarte des chasseurs alpins, plus tard tout ça sera développé. Le béret sera adopté par d'autres corps, les paras, la Légion étrangère, etc. Le béret est bleu roi pour l'Alate, l'aviation légère de l'armée de terre. Enfin, les bérets, les képis, je pense avoir fait à peu près le tour.